There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferbeuf.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Florent Lamy, qui est fondateur et président de Elevate Management. Bonjour Florent.
Bonjour, enchanté.
C'est un plaisir de
plaisir
t'avoir.
D'être là.
voilà, grand plaisir de t'avoir pour ce podcast qui est un peu dans la lignée de celui évidemment avec Laurent Grégoire sur l'adéquate. On continue dans l'artistique et dans le cinéma et dans le monde qui fait rêver. Et on va parler d'Elevate Management. En quelques mots, les grandes lignes, Florent, avant que tu arrives à fonder à Elevate, je crois que tu as été dans les RP d'une grande société avec un cheval ailé fondé par deux frères. Pour les passionnés de cinéma, ils vont reconnaître.
Oui, alors c'est vrai, j'ai commencé il y a longtemps comme attaché de presse pour les films américains qui étaient distribués par... qui existe toujours par Metropolitan Film Export, donc les frères Adida et
Samuel et Victor.
Voilà.
Et pensez pour Samuel qui n'est plus là et qui était un très grand producteur.
Ah oui, qui était.
Qui est pour les auditeurs celui qui a quasiment déniché Tarantino, puisque Reservoir Dogs, me semble-t-il, n'aurait pas existé sans Samuel Adida.
Il y a beaucoup
Adida.
De choses qui n'auraient pas existé sans lui.
D'accord.
Ouais. C'était un visionnaire et un grand homme. Et moi, j'ai beaucoup appris à côté de lui aussi.
Voilà. Et Victor aussi, son frère évidemment, qui est lui-même un vrai entrepreneur. Ouais.
Qui est toujours là et qui continue à faire du très très bon boulot avec la société.
Metropolitan qui est déjà en France, c'est quasiment plus de 20 à 30 ans d'existence,
j'imagine. Parce que c'est une affaire de famille aussi, surtout.
D'accord.
Parce qu'il y avait le père avant qui s'occupait de la distribution de vidéos à l'époque. Et c'était lui qui sortait tous les vidéos de Van Damme, etc. à cette époque-là, dans les années 80.
Quoi. Donc là, tu t'es fait les RP de toute la société. C'est-à-dire, donne-nous des exemples de sorties de films que tu as découvert.
Alors, en fait, c'était un bureau extérieur qui s'appelait Kinema Film et qui était géré par un grand attaché de presse, enfin, qui est toujours là, mais qui est à la retraite aujourd'hui, qui s'appelle François Frey. Et il gérait donc tous les films de Metropolitan. Donc ça passait par alors tous ceux qu'on connaît, la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est les films avec lesquels j'ai commencé, les films de Cronenberg, les Resident Evil, etc., etc. Il y en avait beaucoup.
T'étais un passionné de ciné américain, toi, à la base, très passionné de ciné américain.
Oui. Ouais. Déjà à la base, moi, c'était je regardais beaucoup les films américains.
Tes chocs étant, c'est les films qui t'ont marqué. Ça a été les Die Hard, ça a été les.
Ah oui, moi, c'était vraiment le côté très entertaining et populaire.
Action.
Les Indiana Jones, les Retour vers le futur, je pense que j'ai
Jurassic
dû...
Park, parce qu'on va en parler après.
Oui.
Il y a un comédien
évidemment
proche qui a été dans les Jurassic Park. Mais c'est vrai que moi, c'est vrai que là, je repense pas mal. D'ailleurs, j'ai la vue sur le poster que tu verras à ta gauche de Pulp Fiction, 1994. Mais c'est vrai que les années 90 et 2000, à l'heure où s'ouvre le Festival de Cannes, ça représente quand même quelque chose de très fort pour les cinéphiles. Et je trouve que entre nous, la barre y est pas toujours ces dernières années, quand on pense au Cercle des Poètes Disparus, à Pulp Fiction, à Die Hard, enfin ces films qui ont marqué tout le monde. Je sais pas ce que tu en penses. Bon, ça fait un peu vieux con, mais je sais pas ce que tu en penses.
Non, mais je suis un peu d'accord, mais moi j'ai un peu j'ai toujours eu, c'est pas que je n'aime pas, mais c'est pas mon genre de film qui me fait qui me fait rêver quand je vais au cinéma, ou moi j'ai envie de débrancher quand j'ai pas envie de me prendre la tête quand je vais voir un film. Donc c'est vrai que j'adore les comédies, que ça soit des comédies de Will Ferrell ou même Adam Sandler, moi ça me fait mourir de rire aux films, Jurassic Park, etc. Après les films plus, il y a des films indépendants que j'aime beaucoup, de réalisateurs, les Wes Anderson, etc. mais Mais c'est vrai.
T'as adoré Comme moi sans filtre, quand même, il faut le mentionner, qui était un Triangle of Sadness, qui était un choc, comme Parasite. Il y a eu quelques films.
Oui, il y a le Parasite, j'ai trouvé ça extraordinaire, etc. Et, mais je les ai vus longtemps après parce que, comme j'avais pas forcément envie de les voir. Je sais pas, ça me disait rien à la base, en fait. C'était pour être honnête.
Okay.
Et puis finalement, je me suis laissé embarquer, mais il y en a pas beaucoup. Alors c'est vrai que voilà, j'aime bien le côté entertaining, moi.
Super. Bon bah ça nous fait un bon point commun. Alors Florent, on arrive à justement Elevate Management, qui est vraiment la structure que tu as développée par la suite, qui est vraiment dans la représentation de talents, notamment de comédiens internationaux, mais aussi de réalisateurs internationaux.
Oui.
Je crois que tu as commencé pas avec n'importe quel réalisateur. Tu peux le mentionner. Moi, sa série m'a beaucoup marqué, on peut le dire.
Alors c'est vrai, la personne sur le réalisateur est James Foley, donc on connaît surtout aussi par la série House of Cards qu'il a fait, et puis les derniers films, c'était la trilogie de 50 Shades of Grey. Enfin, il a fait les deux derniers chapitres. Moi, j'ai commencé grâce à lui parce que avant, comme j'étais publiciste, je voulais monter une agence de publiciste. C'était au début, fin 2005-2006, mais toujours dans l'esprit de faire un pont entre les États-Unis et la France et m'occuper des talents étrangers pour la France. Donc c'est vrai que à ce moment-là,
veut dire, pour bien comprendre, ce sont des talents qui sont eux-mêmes représentés par des agents américains, mais pour sourcer des projets qui se tourneraient en France et en Europe, c'est ça l'idée.
Voilà, c'est vrai que à la toute base, je voulais être dans la continuité de mon travail d'attaché de presse. Okay. Mais quand j'ai contacté James Foley, qui était le premier que j'ai contacté, il m'a dit, tu sais, moi, un attaché de presse, j'en ai pas besoin. Par contre, je veux bien un manager pour m'occuper de toutes mes affaires en Europe, que ça soit artistique ou entrepreneurial. Et c'est là où j'ai appris le métier de manager, que je voyais déjà quand j'étais publiciste, parce que les managers venaient avec les talents quand il y avait la promotion en Europe aussi et l'attaché de presse. Et j'étais très intrigué par ce métier parce que ça révèle beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la carrière et de guider et de développer la carrière dans tous les sens du terme, du talent.
D'ailleurs, c'est drôle la différence entre le mot manager et finalement a l'air d'être plus dans l'action qu'un agent. Comment tu définis finalement aujourd'hui un manager versus un agent ?
Alors, si je prends un petit peu l'exemple sur le côté américain, l'agent va être de lui trouver du travail sur le très court terme, c'est-à-dire des castings ou des offres de projets qui vont se tourner dans un mois, dans deux mois. Voilà. Et le manager, lui, va s'occuper de centraliser tout le reste et il va être sur un développement de carrière pour les talents sur le long terme.
Okay.
C'est-à-dire qu'il va chercher toutes les opportunités possibles et dans le monde pour faire avancer la carrière de son comédien ou de son poulain, de son client, de son talent. Je sais que Laurent Grégoire n'aimerait pas que je dise client.
Alors il en a parlé dans son podcast. Il disait que c'était tout le dilemme de ce métier, mais que pour se garder dans une relation finalement humaine, oui, il a dit plutôt le talent.
Ouais. Voilà. Moi, je peux dire les deux. Ça me.
C'est le côté peut-être aux États-Unis, serait moins tabou.
Oui, parce qu'en
France, on a toujours ce rapport à l'argent qui est un peu différent.
Il y a cette notion de business et d'argent qui vient très vite.
Ok, voilà,
c'est surtout ça, c'est vrai.
Super intéressant. Donc le manager, donc ça veut dire que tu vas donc identifier les bons projets, les nouvelles opportunités, conseiller ton talent sur les choix potentiellement à faire, et ensuite faire la contractualisation, le juridique, pour aider à faire les projets.
La contractualisation, souvent, ça va passer par le biais d'avocats.
Oui, des partenaires légaux.
Qu'on a extérieurs. Mais ça va être aussi sur le travail de l'image, du commercial, de l'entrepreneuriat aussi, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, j'aimerais monter une société de production, j'aimerais monter une société autre que... de services, de commerce, etc.
Donc il y a plein de ramifications.
On les aide là-dedans aussi. Ouais.
Tu peux aller à l'entrepreneuriat, tu peux t'as parlé de l'image qui est important, donc le développement de l'image. Ouais, ça veut dire la gestion des books, ça veut dire l'image, le rapport au.
Gestion commerciale, c'est tout ce qui est publicité, tout ce qui est. Pour la presse, on va leur proposer aussi d'avoir un attaché de presse à des moments précis. Donc il y a tout un côté aussi stratégique qu'on a avec eux sur le long terme.
Tu médiatises et tu communiques, voilà. PR. Et donc tu vas aller à Cannes au festival?
Oui.
Tu pars?
J'y vais vendredi.
Vendredi, d'accord.
Voilà.
Et tu l'avais fait chaque année, c'est ton rituel, tu le fais combien de fois?
Pratiquement chaque année. J'avoue que j'ai pas été si l'année dernière, oui. Bon, il y a 2 ans, non, c'était plus compliqué pour tout le monde.
Très vite, c'était plus
compliqué. Mais j'y vais vraiment quand j'ai quelque chose à y faire. Sinon, ça sert à rien. On s'ennuie assez vite.
Là, tu vas avant tout pour tes projets ou pour les talents.
J'ai
un peu
quelques clients qui sont là et j'ai un projet qui est en production qu'on vend à Cannes avec ma partenaire de production qui s'appelle Virginie Lacombe.
Oui.
Et on va produire notre premier film. En anglais, qui s'appelle She's Not Gone et qui sera réalisé par ma cliente qui est une réalisatrice qui s'appelle Mickey Levy. Et ça sera avec Angela Sarafian.
Ok. Et c'est produit, c'est vous qui faites la prod?
C'est nous qui faisons la production et avec Virginie Lacombe qui est mon associée sur ce.
D'accord. Et déjà le financement ou tu es en financement là-dessus?
En financement, on a nos vendeurs qui sont à D'accord. Cannes, là, déjà en train de travailler.
D'accord, on va les saluer. C'est quelle équipe alors?
Ça s'appelle The Coven. C'est une équipe américaine.
Plutôt US, plutôt Los Angeles.
Plutôt américain, côté Los Angeles.
Donc, on va parler un peu des talents. Alors, tu peux nous mentionner, alors je l'ai dit en filigrane, Jeff Goldblum, qui était dans Jurassic Park, qui a marqué tous les spectateurs.
Oui.
Jeff Goldblum, tu peux parler de quels autres talents?
On a moins de talents que justement les agences artistiques pour être plus focus sur eux. Donc on a une quarantaine de talents qui vont de Megan Fox à Emmanuel Shriki, Elsa Pataky, évidemment James Foley.
Tu l'as mentionné.
Qu'est-ce que je peux dire? Parce que je peux pas tous les mentionner. Et puis,
non, mais c'est déjà bien.
Fautes,
ça te montre. Et il n'y a pas d'histoire de rétrocession sur William Morris ou CAA, les grandes agences américaines. Tu es autonome dans tes deals ou sans tout dévoiler? Il y a un peu quand même des histoires de rétro.
Non, ce qui est intéressant, je pense que c'est justement moi, tout ce que je fais. Pour du côté européen pour eux, c'est très en transparence, c'est-à-dire que on met vraiment tout le monde en copie de mail. Ça, c'est une règle peut-être très américaine et moins française.
Donc les US veulent tout savoir, les agents américains veulent évidemment être en...
Oui, mais autant que moi, je veux tout savoir de ce qui se passe quand ils ont des clients à moi dont ils s'occupent aux États-Unis.
Désolé, je demande la question des coulisses, mais ça veut dire que toi, sur un deal que tu amènes, est-ce que les agents américains peuvent aussi percevoir ou pas forcément?
Oui, alors ça dépend vraiment, c'est un peu au cas par cas, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est le talent qui paye directement son agent et son manager. Donc généralement, c'est 10-10, mais on trouve des deals à 7%, et c'est vraiment le talent qui fait le chèque à son agent.
Ce qui est la différence avec la France.
Ce qui est la différence ici, c'est que c'est le producteur qui paye l'agent. C'est qu'on envoie notre facture au producteur et c'est plus 10% du salaire de l'acteur.
Intéressant. Alors donc, aux États-Unis, c'est vraiment directement le talent qui paye
payer son agent, son manager, parce que le manager touche sur tous les deals, qu'il ait trouvé ou pas. Et après, il y a aussi 5% qui est pris par l'avocat, parce que c'est généralement lui qui finalise les deals.
Comme on dit.
Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Des fois, ça fait entre 20 et 25% de commission à rétrocéder. plus les taxes qu'ils ont. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont des fois très bien payés.
Toi, tu es modèle prod, tu es plutôt modèle européen.
Je reste dans le modèle européen tant que je peux, tant que le producteur, tant que ça reste un deal européen et français ou italien ou peu importe, c'est le producteur qui va me payer. Donc après, je peux très bien aussi splitter, ce qu'on a, partager la commission avec l'agent ou le manager.
D'accord, c'est intéressant. Voilà. Et alors, tu connais très bien cet écosystème des William Morris, des CIA. J'imagine que tu les as souvent rencontrés, ces gens-là, qui font un peu penser, voilà, à des films comme Jerry Maguire. Ou
Entourage, la série.
Entourage, mais c'est vrai qu'il faut dire aux auditeurs qu'aux États-Unis, quand même, le monde des managers et des agents est beaucoup plus, encore plus développé, évidemment, qu'en France et en Europe. Ouais. Et ils sont assez centraux, quand même, dans l'entertainment et le show business. T'es d'accord qu'ils seraient plus au cœur du métier, ou je sais pas comment ta vision du truc.
Oui, c'est vrai que c'est des grosses machines. Si William Morris, c'est plus des agences artistiques, c'est devenu des agences de médias. Mmh. Elles sont cotées en bourse pour William Morris, UTA, CIA a racheté ICM pour presque un milliard.
C'est des gros players. Hein.
Et puis ils sont dans tous les domaines. Ils sont dans les domaines du sport, de la finance, du commercial. Et puis ils représentent autant des réalisateurs, des comédiens, mais des sportifs, des auteurs. Donc c'est des.
Quelle vision ? C'est intéressant. Toi, t'es quand même un jeune manager. Comment tu vois ces boîtes-là ? Tu penses que c'est l'avenir ? Ou attention, elles n'ont pas totalement pris le pli du numérique ? Comment tu les vois évoluer ?
Si, ils sont complètement
dedans.
Ils sont
très modernes.
Non, ils ont déjà. Par rapport à chez nous, ils ont 10 ans d'avance.
Ils ont 10 ans d'avance, carrément. Oui, ils sont très, très en avance. Et ils ont déjà intégré l'influence digitale dans tout.
Depuis longtemps, le podcast, moi, j'en parlais déjà il y a 5 ans, par exemple, à des producteurs pour leur dire, regardez des émissions, parce que ça peut être aussi des projets qui pourraient être...
Ils sont à la pointe, quand même, encore les US.
Ouais. Mais j'en entendais parler il y a 5 ans parce que les États-Unis en parlaient beaucoup déjà et qu'il y avait déjà des agents qui représentaient des podcasters pour pouvoir produire leur émission via leur sujet, que ça devienne une série ou un film. Et il y en a eu.
Il y a 5 ans, c'est incroyable.
Oui, il y a 5 ans.
Avant le Covid. Donc, comme quoi, ils ont une petite longueur d'avance.
Ah oui, ils ont une. Donc sur plein de choses, ça qui est très intéressant. Mais après, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agents qui deviennent managers maintenant. Parce qu'ils veulent retourner un petit peu à la source, c'est-à-dire pouvoir être avec le talent et plus proche du talent, de leurs clients, et vraiment ce qu'on appelle faire du management, c'est s'occuper et guider leur carrière.
Alors on va parler de ça justement, parce que c'est un point, moi, qui me tient à cœur, parce que, bon, je peux le dire, Newton Studio est aussi impliqué avec My Gemini, qui est le nouveau modèle de représentation de talent créatif qu'on est en train de développer. Là, je voulais avoir tes convictions là-dessus, parce qu'aujourd'hui, évidemment, bon, les très grandes stars, on le sait, finalement, l'agent, bon, le manager, il réceptionne pas mal de propositions, mais l'enjeu, c'est surtout sur les nouveaux talents. Donc, je voulais avoir ton point de vue là-dessus, sur comment émergent les nouveaux talents. Alors, Laurent, il en a parlé, du fait que, évidemment, aujourd'hui, les réseaux sociaux étaient quand même un bon laboratoire pour montrer ce qu'on fait, et finalement, ça existait moins avant, ça. En même temps, est-ce que c'est pour autant qu'on trouve facilement le super rôle dans un film ou sur une série ? Donc, comment tu vois cette phase-là, finalement, pour plein de gens qui ont du talent aujourd'hui, mais qui peuvent avoir des difficultés à émerger ?
Moi, je suis d'accord avec Laurent sur un point. C'est vrai que les réseaux sociaux deviennent un petit peu la nouvelle porte d'entrée pour se faire connaître. Il y a beaucoup de youtubeurs, d'influenceurs qui se sont fait connaître avec des petites pastiches de comédie et qui ensuite ont fait de la scène, etc.
Oui, il en a parlé beaucoup dans le spectacle vivant. Oui. Il parlait à Kim Jimmy Lee, il parlait de nouveaux talents, qui étaient souvent, c'est la scène. Il y a une bonne perméabilité entre scène, live events, je dirais, et réseaux sociaux. Après, le challenge, j'imagine, tu vas dire, c'est comment passer sur le ciné, les séries. Là, c'est encore un autre game.
Oui, de toute façon, je pense qu'on ne va pas... ces gens-là, même s'ils ont des millions de followers, etc., on ne va pas leur faire des offres directes en leur disant, tiens, on te propose un premier rôle. Je pense qu'il y a quand même un chemin, mais un chemin... de normal où on va faire on va les proposer à des castings, faire des rencontres avec des réalisateurs, voir
l'humain, il reste en fait
l'humain restera clé. Toujours
parce que pour parler aussi récemment à des comédiens, des mannequins, des comédiennes, etc., l'étape, et même Laurent le valider, le directeur de casting reste encore un point clé, même s'il y a la boîte de prod et le réalisateur, il y a quand même un filtre qui s'appelle un directeur de casting qui va ouvrir des rôles et qui à un moment faut décrocher le rôle.
Oui, voilà, il y a pas de surprise.
Encore faut-il rentrer dans les castings, c'est ça que je veux dire. Encore faut-il rentrer sur les opportunités.
C'est pourquoi un manager ou un agent sert, c'est cette porte d'entrée pour ces jeunes talents qui soient connus sur les réseaux sociaux ou pas. Pour trouver du travail et les guider de la meilleure façon dont on peut le faire. Maintenant, en dehors des réseaux sociaux, je pense qu'il y a toujours... On voit en ce moment, il y a beaucoup de gens de la musique aussi, beaucoup du côté du rap, où ils deviennent des comédiens. On voit comme ici un peu, il y a Attic. Alors moi, je suis pas un super... je connais pas bien tout ce côté-là.
T'es dans la série de Franck Gastambide, mais validé.
Oui, et puis qui a tourné déjà quand même un autre film de Guillaume Niclou, je crois que ça s'appelait La Tour, et qui est formidable.
C'est intéressant que tu parles de ça, c'est que je pense que de plus en plus, on va avancer, on va aller dans du cross... univers, ça c'est assez intéressant. Donc les rappeurs, ça a toujours existé, parce que les Joey Star étaient déjà là, et puis mais je parle pas aux US où ça a toujours été le cas. Mais la musique, t'as raison, ça peut être un vrai connexe. Si on a souvent des talents comédiens, musiciens, ça arrive, ou chanteurs évidemment, mais voilà, ça peut être la mode, ça peut être le street art, ça peut être aujourd'hui ça s'ouvre aussi en termes de talents. Que dans le ciné et les séries, ça peut aller sur du documentaire, ça peut aller sur des émissions, ça peut aller sur plein de choses.
Mais c'est ça qui est intéressant quand on décide, en tout cas du côté managérial, pour ma part, ce qui est intéressant, c'est justement d'aller chercher un peu toutes les opportunités pour les talents qu'on va représenter, qui peuvent être... On peut s'occuper d'un écrivain ou d'une écrivain, et puis l'emmener à écrire des films, ou pourquoi pas elle veut faire du commerce et vendre, je sais pas, des fringues par exemple, sa marque, on va l'aider là-dedans, et ça reste quand même artistique. Tout le monde ne veut pas forcément finir et être comédien ou comédienne.
C'est
drôle
que tu parles de ça, parce que de plus en plus de gens d'ailleurs qui sont dans l'univers du spectacle ont d'autres activités. J'ai parlé, on a eu French Bloom là, il y a deux jours, sur l'univers des spiritueux, et on parlait de la tendance quand même de tous les comédiens à avoir leur vignoble. Alors c'était pas nouveau, il y avait Coppola qui avait ses vignobles à San Francisco, mais aujourd'hui, que ça soit Brad Pitt avec Studio Miraval, DiCaprio avec aussi une marque de champagne, donc ils ont tous tendance, enfin je trouve... c'est souvent un pendant d'avoir une activité connexe.
C'est primordial. Pour eux, je pense que... Mais justement,
pour regarder les pieds sur terre, c'est ce que disait notre ami French.
Oui, mais c'est là où c'est intéressant pour moi dans le management, c'est que les gens que j'ai, même des Français, c'est que je veux leur faire comprendre que le métier d'acteur, d'actrice, est quand même aléatoire. Ils peuvent... alors, c'est une carrière, ça se fait évidemment sur le long terme, mais c'est quand même bien, on sait jamais, c'est bien d'avoir cet esprit entrepreneurial, et c'est ça que j'essaye d'apporter. C'est parce qu'aux États-Unis, ils ont compris ça depuis très très longtemps, et si on regarde tous les comédiens, toutes les comédiennes, ils font du business à côté. Le plus grand, un des plus connus, ça a été Ashton Kutcher, qui a investi
à lui, c'est marrant.
Mais il y a aussi Mark Wahlberg qui a une marque d'eau, qui a investi dans Bon, la tequila, là, en ce moment,
je pense à Jessica Biel aussi, qui me semble Jessica, est ultra Jessica Biel, aussi.
Oui, avec...
Marketplace dans l'univers de la mode, oui, éco-responsable. Enfin, il y a aussi un exemple.
Oui, il y a Kate Hudson. Bon, elle est dans les...
Ils sont plus avancés que nous, hein, quand on réfléchit. Parce que nous, il y a peu, finalement, dans les comédiens, les metteurs en scène. Tu me dirais qui est très avancé là-dedans?
Bah, il y en a un, moi, que j'aime, alors, j'aime beaucoup, et c'est Christophe Lambert.
Ah oui, Christophe Lambert, qui est investisseur.
Qui est un investisseur qui a investi dans l'hôtellerie, je crois, c'est dans vrai. Les surgelés.
J'ai eu le plaisir de le rencontrer, on le salue d'ailleurs. Oui. Mais il est très atypique parce que lui, toute sa vie, finalement, il avait une espèce de vie parallèle sur l'entrepreneuriat. Il a investi dans des structures. Ouais. Et comme par hasard, c'est un de ceux qui a le plus bossé que les États-Unis.
Oui, en plus. Donc il a cet esprit-là. Mais c'est vrai, je pense que les Américains, ils n'ont pas... Ils n'ont pas de problème à se dire je peux faire du business à côté, avoir une marque.
En France, il y a cette espèce d'image de dire ah oui, je suis dans l'artistique, la création.
C'est un peu ça, tout faire. On peut pas tout faire.
Ouais, il y a un rapport à l'argent qui est commercial, qui est différent en France. Faut le dire, faut l'assumer.
Aux
États-Unis, il y a un truc assumé sur le business. En France, dès qu'on est dans le monde de la culture, quelque part, c'est quand même un petit peu en opposition. Bon, là, je suis un peu... Là, je donne un peu ma sensibilité.
Non,
hein,
non,
les
mais
auditeurs font leur opinion.
Je suis d'accord, parce que j'ai eu beaucoup de comédiens qui m'ont dit « Ouais, mais en fait, mon métier, c'est acteur, c'est pas entrepreneur. » Et je fais « Mais c'est là où vous avez tort aujourd'hui. »
Après, tout le monde n'est pas capable de le faire aussi.
Non, hein. Mais on peut être aidé, accompagné en construisant une équipe autour. Parce que évidemment, ils vont pas gérer les Mark Wahlberg, les Ashton Kutcher. Ils ont une équipe autour d'eux qui gère leurs affaires. Après, ils ont une vision sur ce qu'ils veulent et comment.
Sans doute qu'ils avaient une fibre entrepreneuriale un peu plus développée aussi,
je
pense. Je
pense que ça leur plaît. Il faut que ça plaise. Mais j'ai une actrice qui a monté une société pour faire du parfum, etc. Au Maroc. Bon, elle est et elle est actrice et puis elle est entrepreneuse à côté et ça marche très bien.
Alors on va parler un peu, on arrive dans la dernière partie du podcast. Moi, c'est un petit point qui m'intéressait parce que je sens que tu es dans une veine très internationale. Il y a eu les US, la France. Tu as dit que bon, on a compris que les US étaient un petit peu en avance sur ce management. L'Europe, qu'est-ce qui se joue, qui est intéressant, tu trouves? Bon, je sais que la France, bon, ça reste un basique du cinéma et les séries, c'est quand même un grand pays. Il y a le Festival de Cannes, on le sait. Qu'est-ce qui est clé pour toi sur la France? C'est l'Allemagne, l'Espagne m'ont l'air d'être beaucoup repartis ces dernières années. Comment tu vois, toi, les pays un peu phares pour toi en avance là-dessus?
Je vais prendre plutôt l'Europe en général. C'est vrai que la France, tout d'un coup, là, on a repris ce que j'appelle repris du galon parce que c'est vrai que les derniers festivals de Cannes ou de Venise ou Berlin, c'est des Français qui ont gagné. Donc, tout d'un coup, il y a une nouvelle lumière de
French Touch.
Voilà, cette French Touch qu'on avait il y a quelques années qui est revenue. Et puis, je pense que l'Europe est devenue une plateforme extrêmement intéressante grâce aux plateformes, justement Netflix, Amazon, HBO, etc. Parce qu'il y a de plus en plus de contenu qui est produit. Il va y en avoir encore plus. Et puis, on est surtout arrivé dans une sorte de globalité de l'entertainment où il n'y a vraiment plus de frontières. C'est-à-dire qu'on peut être en France et produire en anglais avec un casting international. On l'a montré à travers des séries. Donc, il n'y a plus ce cloisonnement.
Ça décloisonne et ça transvessale. Voilà. Transversale beaucoup plus. Je pense aussi à l'importance des séries en local.
Oui.
C'est-à-dire c'est de cette manière avec les plateformes qu'on voit de plus en plus de séries nordiques, de séries allemandes. Il y a une crosse, côté talent finalement.
La lumière vraiment sur un côté global et international où il y a des séries qu'on n'aurait jamais vues si Netflix n'existait pas. Donc, okay. Et les comédiens aussi d'ailleurs.
Le financement, tu trouves qu'il s'ouvre beaucoup ou ça reste compliqué? Parce que ce qu'il faut dire quand même, le nerf de la guerre, on n'en a pas trop parlé avec Laurent, mais c'est quand même toute cette partie financement, l'argent des distributeurs, des plateformes. C'est quand même un chemin de croix pour les producteurs d'aller embarquer ce financement. Comment tu vois cette phase aussi des dessous des cartes, je dirais, de, d'aller monter les projets, qui sont quand même des long runs hein, dans ce métier.
Ouais, ouais.
Comment tu vois ça, toi ?
Je pense que, alors, on va de mal en pis avec le cinéma indépendant, pour moi.
Avec après Covid, tu veux dire ?
Mais même avant, c'était déjà un peu compliqué. Il y a eu l'époque où justement les plateformes ont sauvé un petit peu ce côté du film indépendant où ils finançaient tout. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils le financent moins et qu'ils font beaucoup de films pour populaires, pour le public en premier. C'est des thrillers, c'est des films d'action, et Netflix, on le voit bien. Avant, ils finançaient quand même des films indépendants et tous les réalisateurs indépendants venaient chez eux, en tout cas pour les Américains.
C'est vrai qu'il y avait un côté hype même au début, les Roma de Cuarón, ça s'est un petit peu perdu, je trouve.
Ouais.
On parlera des plateformes, mais je trouve qu'il y a un petit essoufflement personnellement, même s'ils viennent à notre podcast, donc on va les saluer, mais je trouve qu'ils gardent la dragée haute, bien sûr, parce qu'ils ont redéfini le marché, mais qu'il y a un tel enjeu de renouvellement et d'exclusivité de contenu frais qu'on n'a pas toujours, je trouve, le niveau. Bah, tu parlais d'House of Cards, moi, qui m'a tellement marqué cette série, mais qui était déjà pionnière, puisque c'était
la première série qu'ils ont produit
de
vraiment.
Netflix. Et c'était déjà la barre, elle était très très haut. Mais donc, c'est intéressant. Tu dis oui, et c'est vrai que le marché il se polarise avec des grandes sorties des blockbusters.
On a énormément d'argent. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'argent que les 20 dernières années. Il n'y en a jamais eu autant. Mais ça va être distribué à certains films qui vont faire
la majeure partie des entrées.
Voilà, qui feront les entrées, qui feront les vues, comme on dit, sur les plateformes. Ça sera plus compliqué. Mais ça va être intéressant parce que ça fait ressortir aussi d'autres studios. Par exemple, je prends comme l'exemple A24. Qui est un studio américain qui a tout raflé là, avec les derniers Oscars pour le meilleur film. Eux, ils prennent des risques comme le faisaient les studios de l'époque il y a 20 ans ou 30 ans, où ils vont chercher des films indépendants difficiles à monter, mais qui deviennent populaires.
Pépite, comme on dit.
Voilà, mais c'est vrai qu'en France, on a de la chance. Par contre, on a de la chance, on a ce système vertueux qui n'existe nulle part ailleurs, qui fait que...
On a les obligations des chaînes, on a le CNC, et on soutient cette créativité.
On aura toujours nos films français, indépendants,
qui sont bien d'ailleurs.
Qui voyagent quand même.
Ils voyagent et qui sont qualitatifs. Moi, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, je me suis fait 4-5 films d'affilée, et j'étais quand même bluffé de la qualité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une qualité, d'ailleurs Laurent, il le soulignait, il disait qu'il y avait eu un espèce d'écrémage avec le Covid, qu'on revenait vers un réassainissement des films et du nombre de films. Mais c'est vrai que dans les films qui sortent, il y a quand même une belle qualité. Voilà, je pensais à la syndicaliste.
Bah parce qu'on fait aussi plus attention au budget. Et puis l'argent, on le donne moins facilement qu'avant aussi. Il y a quand même ce côté-là où...
C'est plus vigilant, plus exigeant.
Oui, ils font plus attention.
Comment tu vois cette phase de travail du script qui est quand même le nerf de la guerre, de développer un bon scénar? On sait que c'est beaucoup, beaucoup de taf. Comment tu vois cette phase, toi? Tu la suis un petit peu en lecture, en...
Moi, je vois surtout. Alors, c'est vrai qu'il y a, je lis beaucoup de scripts et tout. Et bon, c'est vrai, souvent en anglais et quelques-uns en français. Je trouve qu'il y a beaucoup de talents dans d'écriture. Il y en a malheureusement qui sont pas assez mis en lumière ou d'autres qui n'existeront pas. Mais je pense que le nerf de la guerre, c'est surtout les IP, c'est ça que tout le monde cherche pour pouvoir développer les meilleures histoires et avoir les meilleures histoires.
Ce qu'il faut dire pour les auditeurs, c'est qu'IP, ce sont des propriétés intellectuelles qui ont déjà eu une existence préalable, notamment un livre. On va prendre J.K. Rowling, Harry Potter.
Regarde les Trois Mousquetaires.
C'est le créneau de la société Chapter 2, j'ai l'impression, parce qu'entre Le Petit Prince, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo, c'est vrai que c'est intéressant de reprendre des actifs un peu de la culture universelle et de les adapter. Et c'est vrai que souvent les diffuseurs se polarise sur ses IP parce que c'est moins prendre de risques. Il y a un peu de ça aussi entre
nous. Au niveau marketing et communication, c'est déjà plus facile à vendre parce qu'on connaît, on a un produit qu'on connaît. Alors les gens vont peut-être pas aimer que je dise produit, mais malheureusement, quand on va voir des financiers, des gens qui financent, ils ne vont pas appeler ça forcément une œuvre. Ils vont dire, ah, c'est un bon produit, ok, pour eux. Et puis, le service marketing parle de produit.
Bah, une sortie de film, c'est un produit, puisqu'il y a quand même des market, il faut lancer. Et c'est toute la difficulté du cinéma, c'est qu'à la fois, il faut se raccrocher à des trucs existants. Et en même temps, il faut une originalité. Donc, oui, c'est tout le débat, il est là sur le cinéma.
Ah, bah oui, oui, ça, mais je pense qu'on aura des réfractaires de toute façon tout le temps à se dire non, le cinéma n'est pas un business pour faire de l'argent ou ce n'est pas un produit, on ne peut pas dire ça. Malheureusement, dans les coulisses, c'est comme ça que ça, ça marche.
La vérité est souvent au milieu, d'ailleurs, c'est que c'est à la fois du public et de la création, et on a tendance à trop opposer les deux, d'ailleurs. Et c'est ce que l'entertainment des Américains, en plus, je pense, compris que bah, voilà, un film peut être excellent artistiquement ou grand public. Je pense à Forrest Gump, notamment. Bon, après, c'est des films rares. Hein. C'est
oui,
sûr
oui,
qu'on ne peut pas sortir des Forrest Gump. Je ne sais même pas si un Forrest Gump il pourrait se monter aujourd'hui. C'est ça qui serait intéressant. Il faudra en parler avec Zemeckis et Tom Hanks.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui le disent qu'ils ne pourraient plus faire le même film aujourd'hui.
C'est tout le débat. C'est ce que disent même les grands metteurs en scène, les Spielberg, les Scorsese et autres, de dire que la carte blanche qu'ils avaient avant, aujourd'hui, elle est extrêmement difficile.
Mais on dira sûrement la même chose. Dans les réalisateurs d'aujourd'hui diront sûrement la même chose dans 10 ou 15 ans, disant
faut vivre avec son temps. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que voilà. Donc, en tout cas, super. Alors, quelques mots sur ton initiative de film de super-héros. Je crois que tu as une activité de prod aussi à laquelle tu réfléchis.
Oui, alors ce qui est bien avec le métier de manager, c'est que
je suis au cœur de plein de projets.
On peut produire parce que j'ai aussi un bureau à Londres que j'ai ouvert l'année dernière. Donc là-bas, on peut aussi produire en étant manager. Donc là, j'essaye depuis un an maintenant, on a monté une société avec mon associé qui s'appelle Virginie Lacombe, qui est une productrice, qui a aussi sa société. Et j'ai pris les droits de beaucoup d'IP de super-héros français et européens.
T'es un fan de super-héros?
Moi, j'adore.
Ce qui est drôle, c'est que tu dis européen, évidemment. C'est hors tous les super-héros Marvel
c'est
et US.
C'est vraiment des choses, des personnages qui ont existé dans les années 1900 jusqu'à dans les années 80.
Original. Dis-nous un ou deux exemples sans tout spoiler.
Je peux dire au moins quelque chose qu'on est déjà en train de financer, qui sera la première super-héroïne française, qui s'appelle Loisel, et qui est un personnage qui date de 1909.
Pas mal.
Qui était une sorte entre Catwoman et Batman qui volait.
Drôle.
Ouais, et c'était elle sauvait des hommes. Alors pour l'époque, c'était grandiose.
Ah oui, là tu fais un bon reverse avec le MeToo, quoi.
Peut-être, mais je trouvais ça fantastique parce que c'est dans notre culture depuis très longtemps.
Ça, on l'ignorait.
C'est grâce à un de mes partenaires qui a écrit un livre qui s'appelle « Des super-héros français », qui s'appelle Xavier Fournier.
Ok.
Et qui est le grand expert des super-héros en général. Et c'est grâce à lui que je fais ça. Donc,
Donc tu montes. Tu avais vu le film de Douglas Attal? On va saluer Douglas Attal qui, avec Emma Jabot, a pu travailler ce projet. Ouais. Comment je suis devenu super-héros? Tu l'as vu, ce film?
Alors moi, non, je l'ai pas vu. Je l'ai manqué. J'ai du retard sur certains films.
Tu le récupéreras, mais qui était un super film et qui justement explorait cette veine à la française, qui est quand même assez audacieuse parce que il faut s'attaquer à ce monde des super-héros quand on a Hollywood en face. J'ai envie de dire.
Oui, alors c'est vrai que c'est ce qu'on m'a dit, mais il y a vraiment.
Qui sera plus
artistique. Il y a une vraie différence déjà culturelle et historique sur les personnages qui ont existé en France et ceux qui sont américains. Après, on ne peut jamais s'empêcher de faire le parallèle, évidemment, mais c'est vraiment pour faire renaître une culture qu'on a eue et qui a été perdue à cause de la censure d'après-guerre, de la censure de l'Église aussi.
Tu verrais un traitement un peu plus arty, plus créatif, entre guillemets moins entertainment que les Américains ou pas forcément ?
Non, pas forcément, mais je sais que déjà que dans l'histoire, ça sera très différent des thèmes apportés que ont les Américains, le D'accord. patriotisme, etc., qu'on
sera
voit
peut-être
beaucoup
plus historique,
dans...
tu seras peut-être plus
oui,
dans le,
voilà,
l'anecdote.
Plus, peut-être un peu plus profond dans les histoires aussi, dans les personnages, mais tout en restant quand même très entertaining. Quoi.
C'est, il faut ça que... me fait penser à ce qu'on a fait pour le Centre des Monuments Nationaux, puisqu'on a fait toute la guerre de 100 ans en 2 minutes, et donc ça montre qu'aussi on peut refaire parler des faits historiques de manière divertissante, intéressante, ouais. Donc ça fait écho. Toute dernière partie du podcast, Florent, alors tout d'abord, c'était goût en matière de 2-3 films qui t'ont marqué, et puis 2-3 comédiens, alors t'es pas obligé de les représenter d'ailleurs, mais qui te marquent, qui sont des modèles, et voilà.
En film, c'est un peu mes films de chevet.
De Proust, comme on dit.
Que, ouais. Alors moi, ça va pas être du Godard ou voilà
ah
comme.
Bah mince.
Mais
Jean-Luc.
non, non. Moi, j'adore vraiment. Comme je te disais tout à l'heure, quand je regarde des films, c'est vraiment
Spielberg,
pour être
James Cameron et...
mettre off et apprécier le film. Donc moi, je suis un grand fan de Retour vers le futur.
Ah oui.
Mais la
trilogie,
je la bouffe encore.
Back to the Future, Robert Zemeckis.
Évidemment.
Produit par Spielberg, le premier, tu sais.
Oui, y a Jurassic Park et Indiana Jones, j'adore.
Ah
et
voilà.
C'est produit aussi par Spielberg.
Bon, il n'y a que du Steven, donc je
peux
pas dire
désolé.
Ah bah non, il n'y a pas de désolé, c'est quand même le dieu du cinéma encore vivant d'Hollywood, hein. Je pense que quand Steven, enfin on est d'accord que c'est, il tient encore la dragée haute.
Oui.
Même si, alors tu as vu son dernier film, The Fabelmans ?
Oui, moi j'ai beaucoup aimé.
Forcément,
j'ai trouvé ça très beau,
ouais, très
vraiment.
Bon, très intime, et il dévoilait finalement une part qu'il n'a jamais décrite.
Mais ça se regardait vraiment de très facilement, alors... Au contraire, c'est marrant parce qu'il y a des Américains avec qui je discutais qui ont trouvé ça très chiant.
Un petit peu long, on va dire. Mais,
oui, mais moi j'ai pas trouvé ça si long que ça.
Moi, j'ai trouvé que c'était un beau film, que c'était, il nous ouvrait une fenêtre de son enfance. Et en plus, quand on sait que tous ces films parlent du divorce, enfin de la famille désunie, beaucoup, c'est un thème qu'on a revu dans Arrête-moi si tu peux, dans E.T., dans plein de films. Mais... j'ai trouvé ça bien. Après, j'ai trouvé ça effectivement un petit peu long. Enfin, si tu me dis j'ai préféré Arrête-moi si tu peux ou The Fableman, je préfère Arrête-moi si tu peux.
Ah oui, non mais Arrête-moi si tu peux, je l'ai vu, je sais pas, 5-6 fois. Donc
c'est une bombe. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'adore quand chez Spielberg aussi, c'est ce côté entertainment, mais de qualité. Ou dans Il faut sauver le soldat Ryan, qui est pour moi aussi un chef-d'œuvre. Mais bon, il en a fait tellement que.
Ouais.
Mais c'est vrai que ces deux derniers, ce qui est pas facile pour lui, j'imagine, c'est que c'est beaucoup plus. C'est finalement plus arty. Mais du coup, il a fait beaucoup moins au box-office que ce qu'il est habitué à faire, puisque West Side Story
Et ce qui est un rigolo, juste, excuse-moi, mais c'est justement de voir que ces films-là ne marchent pas très bien aux États-Unis, mais marchent bien en Europe.
Ah, c'est intéressant. Comme Woody Allen un peu.
Ouais, et où le film de Damien Chazelle,
Babylone,
pareil, que j'ai trouvé, moi j'ai trouvé ça génial.
Oui, c'était bien.
Aux États-Unis n'a pas marché, en France et en Europe ils ont très bien marché.
J'ai préféré La La Land à Babylone.
Oui. C'est pour ça que les talents aujourd'hui américains, ils ont une grande attirance sur l'Europe parce qu'ils voient que
l'artistique, il a sa place
et que ça leur donne de la valeur.
Exactement. Super intéressant. Et un ou deux comédiens qui te marquent pour toute ta vie, tes monuments.
Oh là là, c'est
il y a
dur.
Du De Niro dedans.
Il y en a un dans la comédie en tout cas que j'adore, je surkiffe, c'est Will Ferrell.
Ah oui, Will, tu l'as cité tout à l'heure.
Ça vraiment.
À ne pas confondre avec Steve Carell d'ailleurs.
Oui. Et lui aussi est génial.
Ils sont très bons les deux.
Mais ils sont super. Et puis il y en a un qui a été honoré à Cannes, c'est Michael Douglas.
Ah oui, pas mal. Bah, quel est ton film préféré de lui ? C'est Wall Street ou The Game ?
Ah, c'est difficile.
Tape sur
là,
deux,
c'est...
deux grands.
On peut dire les deux ?
Oui, t'as le droit. Et Los Angeles, tu y vas souvent ?
Alors, j'ai pas été pendant un moment là à cause de tout toutes ces histoires de Covid. Et puis les Américains, en plus, après, ils sont encore très vigilants. Ils n'aiment pas faire des rendez-vous. Mais j'y allais, oui. J'essaye d'y aller au moins 2 ou 3 fois par an et d'y rester 2-3 semaines.
Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que tu croises tous les acteurs dans la rue. Nous, on avait croisé Woody Harrelson. Ils sont comme, tu vas manger ton tacos, t'as Woody Harrelson qui est là avec Ben Affleck, quoi.
Oui. Et puis,
c'est pas les mêmes échelles.
On vient pas les emmerder, donc.
Oui, il y a un côté plus détente, un peu moins plus, on va dire normalisé, parce qu'il reboucle avec ce que tu disais sur l'entrepreneuriat. Oui.
Bon, c'est vrai qu'après ils ont tous ces journalistes qui leur courent après, les paparazzi.
Et voilà, la toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer dans le métier du management d'artistes, justement.
Alors, je crois, parce que c'est vraiment un travail d'entrepreneur, je pense que si c'est mon avis, je pense qu'à un moment, il ne faut pas trop se poser de questions et y aller, avoir son idée. Alors, c'est difficile, évidemment, c'est compliqué. Des fois, on a envie d'arrêter, on se demande pourquoi on va faire ça. Mais vraiment, si on ressent le besoin d'aller jusqu'au bout de son idée, il faut y aller. Moi, quand j'ai fait le management, j'ai dit que j'allais m'occuper d'Américains en Europe, on m'a pris pour un fou. On m'a dit, mais pourquoi, ça arrivera jamais, ils voudront jamais. Et j'ai été jusqu'au bout de mon idée. Et puis, bon, aujourd'hui, ça fonctionne. Mais ça fait 10 ans aujourd'hui que j'ai créé l'agence.
Parcours de combattant. Donc, et une vraie passion, parce qu'on sent aussi toute ta passion du cinéma.
Oui, il faut avoir une passion. Je pense que c'est le plus important. Dès qu'on a la passion, on a l'envie derrière. Et avoir beaucoup de compassion avec les gens qui nous entourent, avec qui on va travailler, et être à l'écoute des leçons qu'on peut recevoir. Après, on fait son propre chemin, mais je pense que vraiment, des fois, il ne faut pas trop se poser de questions et se dire, allez, ok, ça va être difficile, mais je vais aller jusqu'au bout.
Comme dirait le film de Nike, je ne sais pas si tu l'as vu, forcément j'en parle. Tu
l'as Oui, et puis son livre, c'est un de mes livres de chevet sur Phil Knight, sur son histoire. Je trouve ça incroyable.
Et Matt Damon, Ben Affleck, vraiment très fort. Et puis tout ce métier indirectement des agents, parce que la détection de Jordan avec sa mère, etc., on est déjà presque. C'est Nike en mode startup, mais
surtout,
ça pourrait être
une
agence.
On le voit d'ailleurs, on se dit, le mec avait cette idée-là, et il n'a pas démordu, il a dit, on veut aller chercher Michael Jordan. Il ne s'est pas posé de questions, il a été malgré toutes les règles. Et d'ailleurs, il y a une règle moi, que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit, on se souvient généralement de vous sur les règles que vous avez enfreignées.
En frein, pardon.
Oui. Voilà, des fois, je mélange un petit peu.
C'est ce que disait Phil Knight.
Oui, c'est ça.
C'est la ligne rouge que tu franchis, qui te définit. Bon, c'est oui, comme disait Bessner aussi, sur qu'on te reproche, cultive-le.
Oui.
Et je ne sais pas si tu as remarqué, à un moment, ils mettent une musique de Jerry Maguire dans le film Nike. Et ça m'a marqué.
Alors ça, j'ai fait attention.
Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a touché, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouvais que les deux étaient excellents, Matt Damon, Ben Affleck. D'ailleurs, c'est drôle de revoir les amis de Will Hunting des années après. Et de voir, j'ai trouvé aussi Nike dans ce mode start-up. J'ai trouvé ça très fort. Et surtout, et puis ce personnage très authentique, finalement, de Matt Damon. Parce que finalement, c'est par la vérité qu'il les embarque tous. Il leur parle super cash. Et en fait, il y a un moment, il y a un plan sur Matt Damon et il te ressort la musique qu'il y avait, je crois, sur Tom Cruise
Je vais le re-regarder.
Parce que j'adore aussi Jerry Maguire, qui est un film incroyable.
Magnifique.
Pour ceux qui n'aiment pas Tom Cruise, voyez quand même Jerry Maguire, parce que je pense que ça va vous réconcilier avec Tom Cruise.
Oui, rien que le film en lui-même, déjà, il est extraordinaire.
Voilà. Et merci beaucoup, Florence. C'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast.
Merci beaucoup.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.